En ces temps où les conflits éclatent dans toutes les parties du monde, il faut longuement réfléchir avant de s'engager. Il n'est pas difficile d'entreprendre une affaire, mais il faut savoir comment on la terminera. Lettre du pape au roi de France, avril 1337. Mille ans d'histoire. Depuis la mort d'Hugues Capet en 996, tous ses successeurs ont toujours eu un fils pour leur succéder. Et comme la tradition depuis cette époque voulait qu'on règne de père en fils, jamais les rois de France n'ont été contestés pendant 350 ans. Jusqu'à Louis X le Hutin, mort en 1316 sans héritier mâle. Une assemblée de princes, de prélats et de bourgeois de Paris, décidant que femme ne succède pas au royaume de France, la couronne revint alors successivement aux deux frères de Louis X, qui eux-mêmes n'ont pas eu de fils. Si bien qu'à la mort du dernier d'entre eux, Charles IV, en 1328, le problème de sa succession se posa à nouveau. Une règle s'est alors imposée qui interdisait la couronne de France, non seulement aux femmes, mais aux descendants de rois par les femmes. Cette loi dite salique, qui datait de Clovis, porta sur le trône un cousin lointain de Charles IV, Philippe VI de Valois, et non le petit-fils de Philippe le Bel par les femmes, Édouard III, qui était à la fois roi d'Angleterre et duc de Guyenne, donc vassal du roi de France auquel il devait rendre hommage. C'est cette situation compliquée qui a déclenché la guerre la plus longue de l'histoire, la guerre de Cent Ans.
Fils de roi ne saurait s'agenouiller devant fils de comte. Je ne rendrai pas l'hommage lige.
C'est la coutume, sire.
Cela ne se peut. Allez dire à mon cousin, le roi Philippe, que je ne rendrai pas l'hommage lige.
Soit qu'il rende l'hommage simple, je lui donne raison à sa place, je ferai sans doute de même.
Si je deviens votre homme de la duché de Guyenne et de ses appartenances, et selon ce que vous et vos ancêtres, roi d'Angleterre et duc de Guyenne, avait fait pour la même duché envers ses devanciers rois de France.
En vérité,
le roi, mon maître, vous reçoit.
Boris Bove, bonjour.
Bonjour.
C'était en 1329, le roi d'Angleterre prétend hommage au roi de France pour la Guyenne, l'actuelle Aquitaine, dont il était le duc. Alors l'hommage étant au Moyen-Âge l'acte par lequel un duc se reconnaissait le vassal d'un suzerain, c'est une cérémonie assez banale en fait dans le système féodal, à ceci près que dans ce cas, c'était l'hommage d'un roi à un autre roi, puisque cet hommage était rendu par le roi d'Angleterre, duc de Guyenne, au roi de France, qui était le suzerain de la Guyenne. Alors cet hommage, vous le rappelez dans un livre, Boris Bove, un livre magnifique, Le temps de la guerre de Cent Ans, qui a été publié chez Belin et qui s'inscrit dans une collection importante sous la direction de Joël Cornette. Alors cet hommage sera rompu 10 ans plus tard, en 1339, par Édouard III, ce qui a provoqué la guerre dite de Cent Ans. Je dis la guerre dite de Cent Ans parce que le mot, évidemment, n'existait pas à l'époque.
Tout à fait. L'expression date du début de la première moitié du 19e siècle. Elle est employée dans des manuels scolaires pour simplifier à l'usage des étudiants, des écoliers, la compréhension de la période. Et donc ça vise à réunir en un tout cohérent les différents conflits qui ont opposé la France et l'Angleterre.
Mais en même temps, ça donne l'idée, le sentiment que la guerre a été une succession de batailles ininterrompues pendant 100 ans. C'est pas du tout le cas.
Alors le mérite de cette convention, de cette expression conventionnelle est de donner du sens à la période. Néanmoins, évidemment, elle est un peu trompeuse puisque, en gros, on peut considérer qu'il y a eu une soixantaine d'années de combats intenses, entrecoupés de trêves, parfois de plusieurs dizaines d'années. Et donc, elle n'a évidemment pas duré 100 ans.
Alors, vous vous distinguez dans cette guerre, deux guerres de 100 ans, si je puis dire. Enfin, ça ne veut pas dire deux fois 100 ans, mais que dans cette guerre, il y a deux grands moments essentiels pour mieux la comprendre, séparés par une très longue trêve d'une quarantaine d'années.
Voilà, donc il y a d'abord une première phase de la guerre qui commence par l'événement que vous venez de rappeler, c'est-à-dire la revendication du trône de France par le roi d'Angleterre, enfin, qui refuse de prêter hommage, et puis après, carrément, qui revendique le trône de France. Et donc, offensive anglaise, victoire temporaire à Calais, et ensuite revanche française. Donc ça, c'est une première partie de la guerre de Cent Ans au XIVe siècle. Et en 1380, on est revenu au point de départ. C'est-à-dire que la Guyenne est toujours anglaise, bien que plus réduite. Il est toujours vassal. Le roi de France est toujours roi de France. Et donc, apparemment, c'est fini. Et ensuite, et là, il y a une longue trêve. Enfin, c'est pas fini parce qu'il n'y a pas de traité de paix, mais les combattants sont épuisés, en fait. Il n'y a plus vraiment d'opérations militaires d'envergure. Et ensuite, la guerre est relancée au début du XVe siècle par la situation intérieure en France, qui est une situation de guerre civile. Et ça redonne de l'appétit aux Anglais, qui voient l'occasion de retenter ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire au XIVe siècle.
Alors, cette deuxième partie, nous la verrons demain, cette deuxième partie de la guerre, hein, puisque cette guerre de 100 ans méritait bien deux émissions. D'abord, commençons par son déclenchement, par cet événement donc qu'on a évoqué. Au fond, c'est une querelle de succession qui se pose depuis quelques années. Hein. Vous le rappelez dans votre livre, Le temps de la guerre de Cent Ans, Boris Boff, pendant des siècles, le problème de la succession d'un roi de France ne s'est pas posé, il avait toujours un fils, et puis il y a la mort de Louis X le Hutin, alors qui fait que on inscrit dans ce qui n'était qu'une tradition le fait qu'une femme ne doit pas régner sur la France, du coup ce sont ses frères qui vont régner, mais alors lorsque ses frères meurent, lorsque ses frères, dont le dernier Charles IV était le dernier capétien direct meurt, comme il n'avait pas d'enfant, le problème s'est posé de savoir qui lui succéderait.
Voilà, donc c'était un problème en deux temps. D'abord, la première succession, celle de Louis X, où on invente une nouvelle règle qui exclut les femmes de la succession. Mais cette nouvelle règle ne va pas de soi, parce que les femmes peuvent hériter des fiefs. Il y a des duchesses en Bretagne, en Bourgogne, et il n'est écrit nulle part que les femmes ne peuvent pas hériter des fiefs, et donc pourquoi pas de la couronne. Simplement, lorsque Louis X meurt, sa fille, c'est une enfant. Enfin, le problème n'est pas son sexe, mais plutôt son âge, en fait. C'est une enfant de 3 ans. Donc ça suppose une très longue minorité, qui est toujours un facteur de trouble politique. Ensuite, on suppose qu'elle se mariera à quelqu'un et donc elle transmettra la couronne à quelqu'un dont on ne sait pas encore qui c'est. Et enfin, elle est plus ou moins soupçonnée de bâtardise. Donc c'est un ensemble de facteurs qui poussent à son élimination. Et donc on invente une règle, ou plutôt le frère de Louis X parvient à s'imposer avec un consensus, avec le consensus de la société politique. Il fait un coup d'État, entre guillemets, où il s'impose comme nouveau roi et ça arrange tout le monde. Donc ensuite, quand lui-même n'a pas de fils pour lui succéder, comme il y a eu un précédent à son avènement, eh bien son frère prend le relais sans encombre. Et Charles IV, à nouveau, meurt sans laisser d'enfant mâle. Et donc là, se pose la question de trouver un homme qui puisse succéder. Alors, là-dessus, il y a plusieurs prétendants possibles. Et Édouard III, le fils d'Édouard II et d'Isabelle de France, qui était la fille de Philippe le Bel, donc il avait une mère française et un père anglais, a des prétentions tout à fait légitimes au trône de France, puisqu'il est le petit-fils de Philippe le Bel. Il est tout à fait proche, il a du sang capétien.
Mais c'est pas lui qu'on a choisi comme roi. C'est un
donc
cousin.
Ça demande,
c'est le premier des Valois.
Voilà. Sa demande est juridiquement légitime, mais politiquement inacceptable, puisque c'est un roi d'Angleterre, et bien que la nation ne soit pas encore ce qu'elle sera, il y a déjà quand même en germe un sentiment national, et donc il est inimaginable ou insupportable aux barons français d'être gouverné par un roi anglais. Et donc ils vont préférer Philippe de Valois, donc fils de Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, pour porter la couronne de France. Et il se trouve que Philippe VI, donc le fils de Valois, Philippe VI, est un chevalier en force de l'âge, il a 35 ans, c'est l'homme de la famille, si vous voulez, qui peut gouverner le royaume.
Alors au début, le roi d'Angleterre, Édouard III, semble au fond accepter ce roi de France, hein, Philippe VI, il lui prête même hommage, on l'a entendu, jusqu'à ce que 10 ans plus tard, justement, il rompe cet hommage et déclenche ainsi la guerre dite de 100 ans.
Puisqu'on me traite de quoi ? Face aux dames et à mes barons, il vaut mieux que je dise là-dessus mon avis. Et je vous fais vœu qu'avant l'année achevée, j'aurai passé l'eau afin de défier le roi qui se prétend de France et me combattre à lui. Va-t-il à moi 1 contre 10 ?
Sire Édouard, devant Dieu qui nous entend, je jure de partout vous précéder en bataille. Mes nobles lords, chacun de vous n'aura-t-il pas à cœur de faire vœu ? Je fais vœu de n'avoir repos gagné que lorsque j'aurai défait en bataille le maréchal de Philippe, le faux roi de France.
Faites savoir à mon cousin Philippe que pour éviter de graves destructions au peuple et au pays, et une grande mortalité de chrétiens, ce que tout prince doit avoir à cœur d'empêcher, je lui offre de le rencontrer en combat singulier, avec pour prix la couronne de Saint-Louis.
Et c'est ainsi qu'a commencé la guerre dite de Cent Ans entre Édouard III, roi d'Angleterre, et celui qu'Édouard III appelait le roi qui se prétend de France, hein, Philippe VI, début d'une guerre donc interminable, et qui commence avec des rapports de force très différents, parce que ce défi que lance Édouard III à Philippe VI, c'est un vrai défi, compte tenu du fait, vous le rappelez dans ce livre, Boris Bov, c'est que la France et l'Angleterre ne pèsent pas le même poids sur le plan démographique et militaire.
Et oui, c'est un peu la guerre entre David et Goliath, puisque le Royaume d'Angleterre est un tout petit royaume de peut-être 5 millions d'habitants, et le Royaume de France, c'est le grand royaume de l'Occident chrétien, avec peut-être 16 millions d'habitants. Et donc si les rapports de force des armées sont proportionnels, évidemment, on ne voit pas comment un petit royaume peut en conquérir, ou en tout cas en mettre en difficulté un grand. Mais évidemment, la population n'est pas tout. Il y a aussi l'organisation du royaume et la manière de faire la guerre qui équilibre en réalité les forces. Alors, sur le plan d'organisation, le royaume d'Angleterre est un royaume beaucoup mieux administré, et plus petit et mieux tenu, si vous voulez. Le roi peut l'exploiter plus efficacement, notamment en matière fiscale, puisqu'il y a un parlement en Angleterre qui est une assemblée qui représente la population et qui peut dialoguer avec le souverain, et le souverain peut obtenir de ce parlement de lever des impôts exceptionnels, et avec ces impôts il peut financer une guerre. Et d'où l'importance aussi de faire une guerre juste et légale, ce qui autorise ensuite le roi à souder la nation derrière lui, enfin en tout cas son royaume derrière lui dans la guerre. Et par ailleurs en Angleterre, donc il y a une seule loi, il n'y a pas de principauté territoriale. Contrairement à la France, où il y a beaucoup de princes et qui ont des principautés parfois assez cohérentes, toujours un petit peu en marge du royaume, et il y a une multiplicité de coutumes, c'est un immense royaume qu'on met 3 semaines à traverser du nord au sud. Et donc tout ça rend assez difficile l'exploitation, disons, économique, fiscale du royaume, et donc ensuite les moyens pour mettre en œuvre la guerre.
Alors cette guerre commence dès 1340 par une petite bataille navale, enfin une importante bataille navale qui se passe en Flandre, près de Bruges, la bataille de l'Écluse. Mais c'est surtout à partir de 1345 que les choses sérieuses commencent, avec une guerre, avec ce qu'on appelle des chevauchées. C'est-à-dire Édouard III débarque en France et puis commence à parcourir la France, à faire des chevauchées. Son objectif n'est pas de conquérir des territoires, Boris Bov.
Non, alors en fait, l'objectif d'Édouard III, c'est d'obtenir la Guyenne en pleine souveraineté. C'est-à-dire que le vrai motif de la guerre de Cent Ans, c'est le choc des souverainetés entre un vassal qui est aussi roi d'Angleterre et qui ne veut pas s'agenouiller devant un autre roi, mettre ses mains entre ses mains et se dire son homme. Il veut tout simplement que la Guyenne soit un morceau du royaume d'Angleterre totalement autonome, ce que ne refuse Philippe VI. Excusez-moi, votre question était...
Le fait que ces chevauchées n'ont pas pour objectif de conquérir la France,
voilà,
c'est
donc,
ça que je veux dire.
Dans cette logique-là, il n'a aucun intérêt à conquérir la France. Son but, c'est d'établir un rapport de force qui lui permette d'obtenir cette souveraineté.
Alors, il ne cherche pas la bataille, vous le rappelez, et pourtant, c'est une bataille qui lui est imposée parce que c'est Philippe VI qui en prend l'initiative. Et alors, une bataille qui a été un véritable désastre, le premier grand désastre français de ces guerres de Cent Ans, c'est la bataille de Crécy. En 1346, grâce à la supériorité justement des forces anglaises, notamment des archers anglais qui ont joué un grand rôle, Boris Bov.
Oui, alors le but de la chevauchée, c'est le pillage. Hein. Donc ça, elle traverse le pays et elle repart. Et donc si là, il y a eu bataille, c'est pas que les Anglais voulaient livrer la bataille, c'est qu'ils voulaient au contraire repartir avec leur butin. Et c'est le roi de France qui les a rattrapés et qui les a forcés à livrer la bataille en espérant, par une victoire éclatante, leur passer l'envie de revenir. Et il se trouve que cette initiative s'est retournée contre lui. Alors il faut dire à sa décharge que Philippe VI avait jusqu'à présent prudemment évité lui aussi les batailles, parce que en réalité tout le monde se méfie des batailles au Moyen-Âge qui sont toujours très incertaines, et on craint que ça se retourne contre celui qui l'a demandé. Donc il recule, met son opinion et ne l'accepte plus. Les Français qui payent l'impôt justement pour financer l'armée veulent une bataille, veulent des résultats en quelque sorte, et il est acculé en quelque sorte à cette bataille. Et là, l'armée, les chevaliers, la chevalerie française est prise par surprise par une nouvelle tactique inventée par les Anglais quelques dizaines d'années auparavant dans les guerres écossaises, qui consistait non pas à donner le rôle noble de la chevalerie, aux cavaliers lourds qui vont charger la troupe adverse, mais aux archers. Car pour simplifier, la bataille médiévale, c'est comment briser l'organisation adverse. Traditionnellement, c'était les cavaliers qui le faisaient, donc ils les chargeaient à 40 km/h avec des kilos de fer sur eux, et c'était le plus lourd qui gagnait. Là, la nouveauté, c'est que ce n'est plus les chevaliers anglais qui vont avoir le rôle de briser l'arroi adverse, ce sont les archers qui vont faire pleuvoir un nuage, les chroniqueurs parlent d'un nuage blanc qui s'abat sur l'armée, et donc toutes ces flèches tombant, tuant les chevaux, blessant les chevaux, semant la pagaille, et ensuite le combat s'achève à pied. Donc les chevaliers anglais ont gagné à pied, en quelque sorte.
D'où le désastre qu'a été la bataille de Crécy, tandis que le roi de France, Philippe VI, se réfugiait au château de la Roye.
Ouvrez ! C'est l'infortuné roi de France !
Maintenant que vous voulez en sécurité, sire, permettez-moi de rejoindre mes troupes que j'ai abandonnées pour me battre à vos côtés.
Merci, mon cousin. Je vous dois la vie.
Il est mort de Crécy, qu'en dirons-nous ? Et quelques milliers d'archers, toute la chevalerie française.
Et nul ne pouvait imaginer que l'Anglais allait utiliser les bombardes.
Si les boulets n'étaient pas tombés sur une chevalerie occupée à massacrer ses archers, parce qu'il les empêchait de charger, ils n'auraient fait aucun mal.
Et Dieu était anglais aujourd'hui.
A-t-on fait le compte de nos troupes ?
J'ai relevé le nombre de chevaliers disparus, 1200.
Non, ceux qui restent, combien sont-ils ?
Votre Majesté a l'intention de repartir en guerre.
Je ne peux pas laisser tomber Calais sans réagir.
Et oui, après Crécy, c'est un autre épisode célèbre de la guerre de Cent Ans qui commence, le siège de Calais qui a duré 11 mois, défendu par Jean de Vienne, et l'épisode des six bourgeois qui se rendaient corde au cou aux Anglais. C'est passé presque inaperçu à l'époque parce que c'est assez fréquent. Ce n'est que plus tard qu'on a donné de l'importance au siège de Calais, Boris Bove.
Oui, alors l'héroïsme des bourgeois de Calais est une invention de Froissart qui a monté en épingle cet épisode. Et donc ça, c'est une initiative qui lui appartient et qui n'a eu aucun succès au Moyen-Âge. Personne ne parle on parle du siège de Calais, mais pas des bourgeois. C'est seulement seulement à l'époque moderne et surtout au XIXe siècle qu'on se rappelle de cet épisode à partir de la narration de Froissart et on en fait des héros de la patrie.
Alors, il y a eu Crécy, il y a eu Calais, le siège s'achève en 1346. C'est là que commence un autre événement majeur, mais qui a interrompu la guerre, c'est la peste noire. La peste noire, d'ailleurs, qui a ravagé aussi bien l'Angleterre que la France, si bien vous le rappelez, Boris Bove, que la guerre n'est pour rien dans cette épidémie qui a vraiment décimé toute l'Europe et pas seulement la France. Et puis, la guerre reprend avec à nouveau une défaite, peut-être encore plus grave que celle de Crécy, parce que le roi de France y est fait prisonnier. Le roi de France était entre-temps Jean de Lebon, puisque Philippe VI était mort. Et ce roi est fait prisonnier, c'est la défaite de Poitiers qui a été un tournant majeur aussi dans cette guerre de Cent Ans. C'était en 1356.
Alors, la plupart des batailles de la guerre de Cent Ans n'ont eu aucune incidence militaire ou stratégique. En revanche, certaines ont eu un immense effet politique, et celle-ci étant la plus importante, puisque lors de la bataille, le roi Jean II, qui participait à la bataille, est fait prisonnier par les Anglais, amené à Bordeaux et ensuite en captivité à Londres. Et donc là, ça crée un véritable tremblement de terre en France, puisqu'il n'y a plus de roi. Enfin, plutôt, le problème est que le roi est encore vivant. Il aurait mieux fallu qu'il meure, en fait, à la bataille, puisque là, ça aurait été clair. Son fils lui aurait succédé, il aurait eu la légitimité pour gouverner. Mais là, le problème est qu'il est toujours vivant, qu'il prétend toujours être roi de France, qu'il donne même des ordres depuis Londres sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais en revanche, il n'est plus en France, et surtout, ses intérêts sont dictés, disons, surtout par son souci de se libérer.
Une rançon énorme en plus.
Voilà, il accepte une rançon énorme. Il ne négocie pas tellement en fait, parce qu'il n'est pas en position de le faire. Et en France, il n'y a personne pour prendre sa place, puisque son fils ne peut pas lui succéder, puisque son père est encore vivant.
Donc, c'est le futur Charles V, le dauphin.
Le dauphin Charles est responsable, mais de fait, il doit prendre en charge le royaume, mais il n'a aucun droit à le faire. Il n'est pas régent, il n'a aucun pouvoir. En fait, les seuls pouvoirs qu'il ait, c'est en tant que duc de Normandie, donc sur la Normandie et sur le Dauphiné, c'est tout.
C'est pour cette raison, d'ailleurs, peut-être, que en 1358, les bourgeois de Paris se révoltent contre le pouvoir royal, contre l'autorité royale, Boris Bove, avec le fameux épisode d'Étienne Marcel.
Oui, alors, c'est pas les bourgeois de Paris qui se révoltent, c'est plutôt le roi qui était en négociation avec son pays depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années pour négocier l'impôt, parce que l'impôt est toujours exceptionnel. Alors pour payer l'armée, il faut lever l'impôt, et chaque année, le négocier, et parfois il est refusé. Et cette négociation a lieu avec les États généraux, qui sont une institution qui apparaît à ce moment-là, et Étienne Marcel est juste le représentant de Paris aux États généraux, mais il y a aussi des clercs et des nobles. Et alors, puisqu'il est le représentant de Paris, que Paris est la capitale, eh bien, il parle au nom des bonnes villes du royaume, mais il n'est qu'un des éléments des États généraux. Et effectivement, son rôle glisse progressivement de représentant des États généraux à révolté, rebelle, si vous voulez, mais il est poussé un peu malgré lui à la radicalité, du fait même de la disparition du roi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interlocuteur pour discuter. Or, ce sont les États généraux qui décident de l'impôt. Et alors Charles, le dauphin, lui, voudrait bien qu'on lui donne de l'argent pour payer les troupes, mais les États demandent à surveiller ses comptes, à savoir comment serait utilisé l'argent. Et donc là, il y a une mésentente qui s'installe, qui pousse progressivement une fraction de ces délégués aux États généraux à être radicaux. Et donc Étienne Marcel incarne cette dérive radicale, et ça se finit mal, puisque à la fin, c'est une fuite en avant qui n'a pas d'issue, il finit par être assassiné par ses propres partisans.
Autre révolte également, c'est celle des paysans contre la noblesse, la révolte de ce qu'on appelait les Jacques en Picardie et en Champagne.
Jean de Hainaut, ma sœur Marie, la duchesse de Normandie, épouse du régent, la duchesse de Bourgogne et madame Jeanne de Bourbon ainsi que ses femmes sont actuellement assiégées par une bande de Jacques révoltés. Ils sont 50, mais demain ils seront 1000.
Brave Jean ! 5 minutes ! Et les échelles seront contre vos murs. 10 ! Et nous boirons votre vin. 15 ! Nous vous trousserons.
Tuez-le.
Sans oublier. Ne gaspillez donc pas vos flèches. À l'assaut !
Et c'était en 1358, une des nombreuses révoltes paysannes qui ont ébranlé le pouvoir royal, les Jacques, vous le rappelez, c'est-à-dire le nom qu'on donnait, je crois, à une partie de leurs vêtements, ce qu'on appelait les Jacqueries plus tard. Il y a eu d'autres révoltes paysannes. Il y a eu également des campagnes ravagées par les grandes compagnies, c'est-à-dire ces soldats démobilisés après les combats et qui ravageaient, qui pillaient, qui rançonnaient littéralement la paysannerie, qui a énormément souffert de ces grandes compagnies avant que Duguesclin les conduise en Espagne. Tout ça a contraint justement le roi de France à accepter finalement la paix, ce qu'on appelle le traité de Bretigny en 1360. On a l'impression que la guerre se termine puisque ce traité met fin au combat en principe. Édouard III renonce à la couronne de France, mais cette paix de Bretigny en 1360 a été très avantageuse pour l'Angleterre parce que au fond elle conquiert quasiment le quart du territoire royal français.
Voilà, donc les clauses du traité de Bretigny sont léonines, puisque le roi d'Angleterre est en position de force et donc il peut imposer ces conditions, qui sont la souveraineté totale sur l'Aquitaine, dont les frontières se sont élargies au cours de la guerre. Donc c'est
Périgord,
partie du partie occidentale du massif central. Donc une très grande Aquitaine en pleine souveraineté, qui était au fond la pomme de discorde initiale. Et en plus, une rançon de 3 millions d'écus. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, le budget de la monarchie, c'est 500 000 livres par an, ou 500 000 écus, si vous voulez. Et donc, c'est colossal, en fait. Jamais la monarchie a eu à débourser une telle somme. Alors, ça ne sera pas payé en une seule année, bien sûr. Mais c'est une clause terrible pour la France.
Alors la France qui se trouve affaiblie, c'est un nouveau roi, le fils de Jean II, Charles V, qui hérite d'un territoire vraiment amputé d'une bonne partie justement de l'ancien royaume. Et Charles V qui va reprendre la guerre à partir de 1369 avec une armée nouvelle et puis une des plus célèbres figures de la guerre de Cent Ans, devenu connétable de France, c'est-à-dire chef des armées de Charles V en 1370.
Bertrand Duguesclin. Nous vous faisons grand connétable de France. Vous devenez notre cousin. Et qui vous offensera commettra envers nous le crime de lèse-majesté. Nous vous remettons l'insigne de votre charge. Cette épée à poignée d'or émaillée de nos fleurs de lys.
Cher sire et noble roi, je n'ose contrarier votre bon plaisir. Mais je suis un pauvre homme et de basse venue. Voici mes seigneurs, vos frères, neveux, Comment oserais-je commander sur eux ?
Messire Bertrand, ne vous excusez point, car je n'ai ni frère ni neveu qui ne vous obéisse. Et si quelqu'un s'avisait du contraire, il me courroucerait si fort qu'il s'en apercevrait trop tôt.
À Bertrand, l'épée !
Livrez-lui l'épée !
L'épée à Bertrand ! Honneur à Bertrand !
Honneur à Bertrand !
Alors avec Charles V et son connétable du Guesclin, c'est un nouveau type de guerre qui commence à partir de 1369. Elle n'a pas de rapport avec celle que menaient autrefois Édouard III et Philippe VI.
Oui, alors la principale différence, c'est que à l'époque de Philippe VI, il n'y a pas d'armée permanente parce qu'il n'y a pas d'impôt permanent pour la financer. Avec la rançon de Jean II, le royaume accepte, enfin, la population accepte de payer l'impôt parce que payer la rançon du seigneur, c'est un cas traditionnel, une obligation traditionnelle dans le monde féodal, et donc c'est douloureux mais accepté. Lorsque Charles V déclare la guerre, eh bien, il arrête de payer la rançon de son père et avec l'argent, il finance une armée. Et donc là, ça change les conditions, c'est qu'il peut désormais avoir une armée permanente, il n'a pas besoin de la mobiliser.
C'est le début de l'armée permanente, en fait.
Oui, c'est exactement. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'on peut financer une armée à l'année. Mmh. Et en l'occurrence, elle a plusieurs dizaines d'années consécutives. Et donc, cette armée ne va pas à la rencontre des Anglais pour livrer bataille, surtout pas. C'est même interdit formellement par le roi Charles V, oui. Sauf s'ils sont à 10 contre 1 et sûrs d'écraser l'adversaire. Donc, la différence, c'est le refus des batailles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont tenir garnison, c'est-à-dire qu'ils vont laisser les chevauchées anglaises s'épuiser à piller la campagne. Alors, certes, ça sacrifie les paysans à cette stratégie, mais ils tiennent garnison et lorsque la chevauchée est partie, eh bien, ils vont faire des petites guerres de siège et ils vont grignoter, reconquérir progressivement la Guyenne, alors que les Anglais, eux, s'épuisent à financer des chevauchées qui n'apportent rien en réalité, puisqu'il n'y a plus de bataille, que les campagnes commencent à être désolées et qu'elles rapportent de moins en moins.
C'est dans ce type d'escarmouche, au fond, que va se distinguer du Guesclin, hein, des espèces de petites guerres de guérilla, au fond, qui se passent.
Oui, alors peut-être qu'il faudrait surtout rendre hommage au roi Charles V, qui a fait une très belle opération de communication avec son connétable, qui est célèbre en histoire de France, surtout parce qu'il a été promu par le roi comme fidèle serviteur, petit noble qui était nommé connétable, alors que d'habitude c'était un prince, donc voilà, personnage exceptionnel. Cela dit, il a fait ce qu'on lui a dit de faire, c'est-à-dire tenir garnison et faire des petits sièges pour grignoter la Guyenne.
Si bien qu'en 1375, les Anglais ont perdu presque toutes leurs acquisitions du traité de Brétigny, sauf Calais et deux petits territoires autour de Bordeaux et de Bayonne. Nous en parlerons demain dans la deuxième partie de 2000 ans d'histoire consacrée à la guerre de Cent Ans. Je recommande pour en savoir plus la lecture de votre livre, Boris Boff, Le temps de la guerre. Guerre de 100 ans, publié chez Belin dans la collection Histoire de France que dirige Joël Cornette, une nouvelle collection qui comprendra 13 volumes dont 4 sont déjà parus. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les Rois Maudits, réalisé par Claude Barma, disponible en coffret DVD chez TF1 Vidéo, Gaston Phébus, un téléfilm de Bernard Borderie, édité en DVD chez Pathé, et Du Guesclin de Bertrand de la Tour en DVD aux éditions Les Classiques Français. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Noël Vélan et Claudine Lapersonne, documentation Emmanuel Fournier, Frédéric Martin, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.